Je suis Nicolas Champollion, je travaille à l'Institut des géosciences de l'environnement qui est un laboratoire de recherche avec plusieurs tutelles et mon employeur est le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Et voilà, je travaille depuis quelques années sur l'évolution des glaciers de montagne.
Invité par le Club Alpin Français de Saint-Étienne, Nicolas Champollion animait le 12 février dernier une conférence intitulée « Disparition programmée des glaciers de montagne, quelles conséquences et comment agir ?». Les Nations Unies ont proclamé 2025 comme l'année internationale de préservation des glaciers. Alors quel constat peut-on faire aujourd'hui quant au volume restant en 2025 des glaciers, notamment dans les Alpes ?
Alors, si on commence d'abord par l'ensemble des glaciers de la planète, qui représentent environ entre 30 et 40 cm d'équivalent d'élévation du niveau des mers. Donc leur volume total, si ça amenait à fondre, ferait 30 à 40 cm d'élévation du niveau des mers. Dans les Alpes, c'est beaucoup plus restreint, parce que les volumes de glace maximaux sont dans les régions arctiques en général. Et dans ce volume, il y a une fonte actuelle qui est importante, liée au réchauffement du climat, qui est estimée pour la fin du siècle entre 25 et 50% mondialement, en fonction de comment le climat va se réchauffer et à quel point l'homme va émettre des gaz à effet de serre, puisqu'on ne sait pas ce qui va advenir. Pour les Alpes, c'est par contre plus dramatique, parce que le climat se réchauffe plus vite dans les Alpes que sur la moyenne globale. Et en plus, il y a déjà un déséquilibre important des glaciers avec le climat, ce qui fait qu'ils vont souffrir plus, et on attend plutôt une disparition presque des 3/4 à 90% des glaciers alpins d'ici la fin du siècle.
Alors, c'est pas très réjouissant, tout ça. Les constatations, on en fait quelques-unes avec ce que vous venez de dire. Comment ça se voit? Comment ça se remarque? Parce que, effectivement, on nous parle de cette disparition des glaciers, mais on les voit encore. Mais ceux qui les étudient, les voient reculer, c'est ça?
Exactement. Alors, il y a pas mal de façons différentes de les observer. Je dirais les deux grandes façons principales, c'est des mesures de terrain ou des mesures satellites. Les mesures de terrain, c'est réellement aller sur ces glaciers et regarder la position du front du glacier, l'avoir reculé d'année en année, avoir des balises sur le glacier qui permettent de calculer l'accumulation de neige pendant l'hiver et l'ablation de neige puis de glace pendant l'été. Donc, en faisant la somme, on peut savoir quelle est la quantité de neige ou de glace qui a été perdue par le glacier. Après, il y a d'autres mesures un peu plus complexes sur la vitesse d'écoulement du glacier, sur son épaisseur avec des radars. Voilà, donc il y a des tas d'observations sur le terrain qui permettent de quantifier à quelle vitesse il évolue. Et du coup, on a des mesures par un observatoire qui s'appelle Glacioclim, avec des collègues de mon laboratoire qui s'en occupent depuis bien 30-40 ans, qui permettent d'avoir cette évolution de certains glaciers, parce que du coup, on peut pas se rendre sur l'ensemble des glaciers de la planète. Et donc, c'est là où les observations satellites interviennent, qui nous permettent d'avoir une vue beaucoup plus exhaustive des régions englacées sur la Terre. Et on arrive à faire des surfaces des endroits englacés. Et par différence entre la surface entre une année 2020 et 2021, on connaît le changement de volume de ces glaciers. Donc, on peut les estimer plus globalement. Et on s'aperçoit que ce qu'on observe localement sur certains glaciers se reproduit aussi à grande échelle.
Alors, c'est quoi un glacier?
Bonne question. Un glacier, c'est une quantité de neige qui se transforme en glace et qui se met à couler, donc à évoluer au cours du temps. On considère que pour qu'un glacier soit un glacier, il faut que la glace soit présente pendant plusieurs années, donc elle ne fonde pas entièrement pendant l'été, sans doute supérieure à 5 ans. Il n'y a pas de définition exactement officielle, mais voilà, une longue durée, et qui se met à couler, c'est-à-dire que juste un lac gelé n'est pas un glacier, ou un endroit où il y aurait une avalanche qui se serait déposée n'est pas un glacier. Il faut que la quantité soit suffisante pour que le poids entraîne vers le bas.
Alors, est-ce que par nature, le glacier évolue forcément est-ce que on peut s'apercevoir de reprises de masse, de volume, sur des périodes et des pertes ensuite avec de façon saccadée? Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez observer?
Oui, c'est ce qu'on appelle la variabilité interannuelle ou la variabilité naturelle, parce qu'il y a la tendance à long terme des glaciers qui fait qu'ils fondent de plus en plus chaque année, mais sur une année donnée, on peut avoir une augmentation. Alors, c'est plutôt rare ces dernières années, voire très rare, mais effectivement, si on regarde d'année en année, il y a quelques fois où le bilan de masse du glacier, donc la quantité de masse ou de glace annuellement qui reste, est proche de zéro. C'est très rare qu'elle soit quand même au-dessus de zéro, il faut l'admettre, en tout cas dans les glaciers alpins. Elle est souvent plutôt de moins 1 mètre d'épaisseur, moins 2 mètres, moins 3 mètres en moyenne sur l'ensemble du glacier. Mais voilà, il y a ces fluctuations qui sont totalement naturelles, parce qu'on a des années plus chaudes et avec plus de précipitations, et inversement moins chaudes et moins de précipitations, mais la tendance est claire.
Les conséquences, quelles sont-elles aujourd'hui? Quelles sont celles qui sont non pas visible par cette fonte et ses calculs, hein, et ses images satellites et ses repères, mais dans l'environnement direct de ces glaciers-là, quelles sont les conséquences premières ?
Alors, proche des glaciers, il y en a plusieurs. On pourrait dire que la moins importante, mais ça serait à débattre, c'est la perte de vue des glaciers, de l'esthétique, de l'héritage qu'on peut avoir. Les vallées alpines, les gens qui vivent dans ces régions apprécient la présence de glaciers et donc on les voit disparaître avec le temps. Ça, c'est des conséquences qui sont peut-être gérables, en tout cas, qui ne sont pas d'influence directe sur la vie humaine, peut-être plus modérées. Les conséquences les plus importantes localement sont les ressources en eau qui peuvent être réduites à cause de la fonte des glaciers. Les rivières sont alimentées à la fois par la pluie, par la neige qui fond et par la glace qui est perdue. Et donc, si on enlève un des compartiments, et ben, la quantité d'eau dans la rivière est diminuée. Et donc, moins d'eau dans les rivières fait qu'il y a moins d'eau pour les populations, que ce soit pour l'agriculture, pour la vie courante, pour des tas d'activités humaines. Donc ça, c'est des choses plus locales. Il y a des parties risques aussi. Le fait que les glaciers reculent font que les pentes rocheuses qui sont libérées deviennent plus instables. C'est des choses que moi, je connais moins, mais qui sont bien étudiées aussi dans notre laboratoire par d'autres collègues. Et par contre, moi, ce que je connais aussi beaucoup, c'est les conséquences globales, donc l'élévation du niveau des mers, où la glace finit in fine dans l'océan et donc fait s'élever le niveau des mers et les régions côtières sont menacées.
Alors au-delà de ces régions côtières, l'impact direct aussi sur la structuration d'un territoire, les zones agricoles, les zones industrielles, est-ce que ça aussi la fonte des glaciers peut avoir un impact sur cet environnement entre guillemets créé par l'homme ?
Effectivement, le recul des glaciers fait que de nouvelles zones s'ouvrent ou deviennent accessibles à l'homme, notamment dans des régions plus éloignées que les Alpes, où les Alpes, finalement, les glaciers sont quand même restreints dans des hautes vallées alpines, et donc du coup, l'accessibilité est moindre. Mais là où ils sont très grands, en Himalaya ou en Alaska, par exemple, effectivement, quand ils reculent, ils libèrent des zones qui peuvent servir à de multiples choses d'activité humaine. Et il y a eu notamment une initiative l'année dernière de collègues français et internationaux, si je ne me trompe pas, menant à préserver ces zones. C'est-à-dire qu'une fois que le glacier s'est retiré, nous n'allons pas sur ces zones pour soit faire de l'agriculture, soit faire du tourisme de ski, soit faire... on garde ces zones naturelles parce que finalement, des nouveaux écosystèmes peuvent se développer, que ce soit des plantes, de la faune, de la flore. Et donc, conservons... On a perdu les glaciers, mais conservons ce qui peut rester ensuite.
Aujourd'hui, comment agir finalement contre ces disparitions programmées et surtout comment agir face à certains États qui ne considèrent que très peu cette question-là et qui considèrent plutôt cette question comme qu'est-ce qu'on peut trouver dessous, quelles ressources on peut trouver, quel est le positionnement que vous avez, vous, en tant que chercheur, et face à différentes déclarations qu'on peut avoir d'hommes politiques à la recherche de cette ressource infini. Quelle logique vous opposez à ça ?
Oui, c'est assez compliqué. Alors, je dois préciser d'abord qu'effectivement, là, je rentre plus dans une position personnelle qu'une position d'expert scientifique, où effectivement, il y a des différences de point de vue également entre les différents collègues. On a tous le même constat, mais par contre, les moyens d'action sont plus différenciés. Et pour répondre, je pense qu'il y a vraiment différents niveaux. L'ensemble de l'humanité et des personnes a quelque chose à faire et prendre sa part à son juste niveau dans ses actions, avec une équité entre les différentes actions. Évidemment que celui qui pollue beaucoup plus et qui émet beaucoup plus gaz à effet de serre impacte beaucoup plus le climat et donc sa réduction devrait être plus importante. En tout cas, je considère qu'elle doit être plus importante. À l'inverse, quelqu'un qui a du mal à vivre et qui a faim, on va pas lui demander de gros efforts. On peut toujours lui demander des petits efforts parce que ça permet d'avoir une responsabilité partagée, mais elle est beaucoup plus grande chez les gros émetteurs. Ça, c'est une réponse assez classique et globale. Mais après, c'est vraiment à différents niveaux. C'est-à-dire que il ne faut pas opposer les actions collectives, individuelles, systémiques. Faisons des efforts au quotidien, faisons un peu de sobriété dans nos gestes, achetons des choses plus durables. Demandons ensuite à nos décideurs de faire des actions collectives et systémiques qui permettent d'évoluer dans des directions qui sont plus respectueuses de la planète. Et mettons la pression sur les pays étrangers, parce qu'effectivement, on ne peut pas individuellement le faire, mais si une conscience collective de la citoyenneté fait qu'on arrive à montrer ces questions-là, eh ben, il peut y avoir une influence. Alors, je ne suis pas non plus dans de l'idéologie ou de l'optimisme à tout va, mais je pense qu'on peut quand même pousser même des dirigeants étrangers, même des patrons de grandes entreprises qui sont moins enclins à faire ces efforts et qui veulent exploiter toutes les nouvelles régions et les ressources potentielles, à infléchir leurs idées.
Vous parliez en votre nom, mais y a-t-il un discours aussi qui peut être aussi entendu de par tous les chercheurs de votre domaine? Ce discours qui est déjà posé, hein, avec ses constatations sur le changement et dérèglement climatique. Y a-t-il consensus auprès de, avec vos confrères sur cette réalité?
En très grande partie. Alors sur le constat scientifique, il y a un consensus qui est très très large et aujourd'hui il y a quasiment plus de voix dissidentes vis-à-vis des constats qui sont que la température s'échauffe et qu'elle est liée aux émissions de gaz à effet de serre humaine. Il y a quelques discussions encore sur les et donc pas de consensus sur les impacts qu'il va y avoir dans le futur. Le niveau des mers est assez bien compris et le consensus est fort, mais par exemple sur les effets qu'auront cette augmentation du niveau des mers sur les côtes et comment l'homme va réagir, là il n'y a pas encore du consensus. Et est-ce que il va y avoir des déplacements de population ou est-ce qu'il va y avoir des adaptations? Voilà, les choses sont encore en réflexion et en discussion et des études scientifiques sont nécessaires pour aussi estimer quels sont les impacts qui vont être le plus à même de nous préserver de ce qui va arriver. Après, sur les moyens d'action, je pense que le consensus partagé par l'ensemble de mes collègues climatologues et glaciologues est clairement de faire de la médiation et de la vulgarisation. Ça, c'est partagé, de montrer au grand public nos connaissances. Je pense que la sobriété est aussi quelque chose de partagé assez grandement dans tout, à la fois nos gestes quotidiens et nos activités de recherche et comment la société se construit. Après, par contre, effectivement, il y a des marges de manœuvre plus importantes entre plus de radicalité dans les choix ou conservons le système mais adaptons-le pour qu'il soit respectueux de l'environnement. Mais la sobriété est quand même quelque chose d'assez central parce que finalement, ça rejoint du bon sens qu'on a juste d'utiliser ce qu'on a besoin et de ne pas vouloir toujours plus.
Alors, est-ce que vous avez, pour nos auditeurs, peut-être des lieux ressources, des sites internet de vulgarisation un peu du sujet pour comprendre la question et pour avoir, au-delà de la vulgarisation, peut-être tout un tas d'informations pour quiconque souhaiterait s'informer, s'intéresser sur ce sujet de la disparition programmée des glaciers de montagne?
Alors oui, il y en a, mais c'est aussi une bonne remarque qu'il y en a insuffisamment. On n'est pas assez enclin à faire des sites web ou des lieux d'échange et d'informations pour le grand public de la part des scientifiques, donc c'est quelque chose qu'il faudrait promouvoir. Là où il y en a, c'est par exemple si on va sur le site web de l'Institut des géosciences de l'environnement, il y a des liens vers des articles scientifiques et à la fois vers des articles de vulgarisation, donc on peut en trouver. J'aime le média The Conversation, qui est un média de vulgarisation scientifique grenoblois et qui aussi, c'est des chercheurs qui écrivent, mais on essaye de nous accompagner pour écrire de manière bien pour le grand public, ce qui est important. Et après, alors sur le niveau des mers et sur les glaciers, il y a deux sites que je recommanderais. Il y en a un qui est un projet européen qui s'appelle PROTECT. C'est pour protéger, je ne sais plus exactement l'acronyme, mais peu importe. Et qu'il y a des vidéos de vulgarisation et qu'il y a des ressources pédagogiques aussi pour que ce soit des enseignants ou des gens qui s'intéressent à ces questions-là. Et puis le deuxième, c'est un site d'observation de l'évolution des bilans de masse des glaciers. Ben, il y en a deux. Il y a Glacioclim, donc l'observatoire français des glaciers, et un site suisse WGMS, World Glacier Monitoring Service, qui montre l'état des glaciers et avec des outils adaptés quand même pour le visualiser.